journal d'Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Préservatifs délaissés et nouvelles pratiques à risque, les MST reviennent en force chez les jeunes. Les médecins voient se multiplier les cas de chlamydia ces dernières années et ils s'inquiètent des dépistages en chute libre depuis la crise sanitaire. Dossier complet à suivre. Un front uni à l'école contre le protocole. Les enseignants massivement en grève aujourd'hui et c'est assez rare, avec le soutien de nombreux parents. Nous serons en Normandie. Au sommaire aussi, garde à vue prolongée dans le dossier Chevaline. Le lourd bilan des catastrophes climatiques aux États-Unis et les handballeurs français qui commencent l'Euro ce soir contre un adversaire redoutable.
Et avec Léa Salamé, dans 20 minutes, c'est aujourd'hui la comédienne, scénariste, réalisatrice Valérie Lemercier pour la pièce Les Sœurs Bien-Aimées. C'est au Théâtre Antoine à Paris à partir du 21 janvier.
France Inter.
Et là, c'est une flambée, Alexis, éclipsée par la crise sanitaire.
Les MST, les maladies sexuellement transmissibles, galopent chez les jeunes. L'augmentation était à deux chiffres juste avant l'émergence du Covid. En 2020, les statistiques ont baissé, mais les médecins préviennent. C'était purement artificiel en raison d'une chute préoccupante du dépistage. Et en ce début d'année, Véronique Julia, les spécialistes alertent de nouveau sur la santé sexuelle des 15-30 ans, sur fond de nouvelles pratiques et de protection négligée.
Jérôme André préside l'association HF Prévention qui fait du dépistage dans les universités. Pendant un an et demi, c'est vrai, ce dépistage auprès des jeunes s'est mis en sommeil. À la rentrée de septembre, le réveil a été brutal.
Au mois de septembre, 40% des étudiants qui ont été diagnostiqués avaient effectivement une infection sexuellement transmissible. Des chlamydia, mais pas seulement, on a aussi beaucoup d'hépatites, des syphilis qui sont malheureusement en explosion.
40% de plus qu'en 2019. La cause, pas de dépistage pendant des mois, un moindre recours aux préservatifs et des pratiques sexuelles plus à risque.
Il y a de plus en plus d'utilisation de drogues, de chemsex notamment, donc qui est à la fois de la consommation de drogue, mais avec donc des rapports sexuels. La consommation par exemple d'LSD, de cocaïne, de shit, qui aussi diminue la vigilance.
Le docteur Catherine Fouet est gynécologue médicale, elle est active également au planning familial. Elle déplore elle aussi l'abandon de plus en plus systématique du préservatif.
En fait, ils vont dire « oui, je l'utilise ». Et je dis « mais à chaque rapport, ah ben non ».
Le médecin déplore aussi l'absence de recours au dépistage.
Quand on fait une ordonnance pour aller faire un dépistage, bon, je dirais plus d'une fois sur deux, ils n'y vont pas.
Le manque de prévention et d'éducation sexuelle est pointé par ces professionnels qui rappellent que diagnostiquer rapidement ces maladies se soignent très bien avec des antibiotiques. Les chlamydia non traités peuvent en revanche rendre les femmes stériles.
La flambée des MST, dossier signé Véronique Julia, spécialiste santé d'Inter.
À l'école aujourd'hui, il est 7h33, il sera plus simple de compter les non-grévistes.
Oui, car ils ne seront pas très nombreux devant les élèves ce matin. C'est inédit depuis des années. Tous les syndicats de l'éducation nationale appellent à la grève contre la gestion de la crise sanitaire. Et les professeurs ne sont pas les seuls concernés. Là aussi, c'est rarissime, mais inspecteurs, proviseurs, CPE et surveillants se joindront au mouvement. En primaire, trois quarts des enseignants font grève selon leur principale organisation. L'autre particularité de ce mouvement, c'est qu'il est aussi soutenu par une partie des familles, comme vous l'avez constaté, Céline Autain à Rouen.
Même les parents qu'une grève des profs fait ronchonner d'habitude sont pour la mobilisation, à l'image de Claire.
Là, ils demandent plus d'aide et je vais plus soutenir les professeurs des écoles. Et je connais des maîtresses et elles ont fait double ou triple travail.
Une triple journée aussi pour ce père de famille qui vit un début de semaine de galère avec deux enfants en primaire qu'à contact.
Ils nous ont appelés pour aller chercher le petit. La petite, le lendemain, pareil, on était obligé d'aller chercher alors que je travaillais. Donc il faut aller faire la queue pour faire les tests pour les enfants à la pharmacie, c'est pas évident. Les maîtresses aussi, je comprends que c'est pénible un peu en fait.
D'autres sont passés entre les gouttes. Pour l'instant, c'est le cas des enfants de Kevin en CP et maternelle.
On a vu la désorganisation, en tout cas à l'entrée de l'école élémentaire, la directrice qui faisait le tri entre les enfants contact, pas contact.
Il soutient la grève, mais il n'est pas d'accord avec une revendication de plusieurs syndicats, à savoir le retour à l'ancien protocole, un cas positif égale une classe fermée.
Ça va amener à des classes fermées complètement et on passe à un téléenseignement, ce qui ne sera pas forcément facile pour toutes les familles. La difficulté a été de se procurer des tests. Donc si l'école pouvait fournir, plus que par les pharmacies, faciliterait aussi l'organisation pour les parents.
Une option écartée par Jean Castex en début de semaine, seules les pharmacies sont livrées en autotest.
Reportage France Bleu Normandie, des parents contraints de s'organiser car beaucoup de mairies auront bien du mal à assurer aujourd'hui un service minimum d'accueil, faute là aussi de personnel disponible, car malade ou gréviste. Le Sénat donne son feu vert au pass vaccinal, mais en version édulcorée. C'est un projet de loi très amendé que les sénateurs ont approuvé cette nuit, 249 voix contre 63. Ils vont tenter maintenant de trouver un compromis avec les députés, ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Elle est prévue cet après-midi. Et forcément, à 3 mois de la présidentielle, Simon Le Baron, la discussion sera pleine d'arrière-pensée politique.
Évidemment, la campagne présidentielle sera dans toutes les têtes.
Tout va dépendre du gouvernement.
Le patron de la majorité sénatoriale de droite, Bruno Retailleau, annonce la couleur.
Soit le gouvernement fait le choix de nous rejeter dans l'opposition parce qu'il veut s'arroger le monopole de la politique vaccinale. Soit au contraire, il considère, le gouvernement, que son devoir, c'est rechercher le consensus.
Les sénateurs ont supprimé certains points importants du texte. Le pass vaccinal pour les mineurs, les contrôles d'identité à l'entrée des bars et des restaurants, les amendes pour les entreprises qui ne respectent pas le télétravail. Là-dessus, on peut négocier, assure un cadre de la majorité. En revanche, ils ont ajouté une ligne rouge, l'extinction automatique du pass sous le seuil des 10 000 hospitalisations, inacceptable pour l'exécutif. Alors qui lâchera sur quoi ? Le député marcheur Sacha Houlier renvoie déjà la balle au Sénat.
Qu'est-ce que c'est que ces histoires de conditionner l'adoption d'un texte de loi attendu par les Français à une hypothétique attitude ou comportement du gouvernement ? Je trouve ça incompréhensible et irresponsable. Faire des calculs politiques sur un texte sanitaire, moi je dis simplement que c'est moche.
Si le gouvernement reste inflexible, les sénateurs crieront au mépris du Parlement. Si les sénateurs bloquent, le gouvernement ne manquera pas de dénoncer leur irresponsabilité. Et à l'arrivée, le pass vaccinal sera appliqué avec au pire quelques jours de retard sur la date du 15 janvier.
Le Sénat qui relance aussi aujourd'hui une vieille bataille de la sécurité routière. Le casque doit-il devenir obligatoire à vélo ? Aujourd'hui, seul un tiers des adultes le porte. Une proposition de loi centriste sera donc discutée cet après-midi pour l'imposer à tous, alors que la pratique du vélo explose en ville. Mais pour les associations de cyclistes, c'est une fausse bonne idée. 3 Britanniques, un cycliste français abattu sur un parking isolé, 2 fillettes miraculées, 9 ans après la tuerie de Chevaline en Haute-Savoie. L'affaire est-elle en passe d'être relancée ? Un homme est en tout cas entendu depuis 24 heures. Garde à vue prolongée hier soir. C'est quelqu'un que les enquêteurs connaissaient déjà, Emmanuel Leclerc.
Ce chef d'entreprise lyonnais, motard, alpiniste, adepte du parapente, avait déjà été placé en garde à vue durant près de 24 heures en 2015. Il correspondait au portrait robot établi par 2 gardes forestiers qui avaient croisé un motard le jour du quadruple crime de Chevaline. Et c'est son téléphone portable qui avait borné à proximité. Le suspect avait alors raconté qu'il était justement passé près du parking où a eu lieu la tragédie parce que la route qu'il aurait dû emprunter normalement avait été fermée. À l'époque, l'homme, la cinquantaine, avait convaincu les enquêteurs. Cette fois, le dossier a été passé au crible de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Les analystes ont-ils trouvé des incohérences entre les déclarations en 2015 et des éléments jusque-là inexploités ? La procureure d'Annecy a juste évoqué des vérifications d'emploi du temps. Elle a appelé à la plus grande prudence. L'avocat du suspect, Jean-Christophe Basson-Larbi, a affirmé de son côté qu'il attendait de savoir exactement ce que les gendarmes ont trouvé comme possible indice grave et concordant contre son client qui, dit-il, nage pour l'instant en plein cauchemar.
Précision signée Emmanuel Leclerc. Les troupes russes dépêchées en urgence la semaine dernière au Kazakhstan doivent commencer à quitter le pays aujourd'hui. 2000 soldats ont été envoyés au total pour faire face aux émeutes massives déclenchées là-bas par la hausse des prix du gaz. Quand les conséquences du réchauffement deviennent d'année en année toujours plus concrètes, aux États-Unis, les autorités fédérales font le bilan ce matin de l'année 2021. 650 morts dans les catastrophes climatiques et une facture de plus de 100 milliards de dollars. À Washington, Sébastien Paour.
4 Américains sur 10 vivent dans des comtés touchés par des catastrophes climatiques l'an dernier et 8 sur 10 ont connu au moins un jour de température anormalement élevée. Janvier, des coulées de boue en Californie sur les sols calcinés par le Dixie Fire qui a brûlé une surface plus grande que les villes de New York, Los Angeles, Chicago et Dallas réunies. Février, le Texas se fige dans la neige et le froid. Des millions de personnes sont privées d'électricité jusqu'en Ohio. Fin août, l'ouragan Ida frappe la Louisiane puis New York où ses pluies font monter l'eau de 15 cm par heure. horreur dans les sous-sols. Les égouts sont conçus pour en traiter moins de la moitié. Des montagnes de Caroline du Nord au Grand Canyon, en passant par les zones rurales du Tennessee, les crues soudaines ont fait plus de 100 morts en Amérique l'an dernier. 2021 se termine par deux événements inhabituels en décembre, les tornades dans le Kentucky et le brasier le plus destructeur de l'histoire du Colorado. Plus de 1000 maisons parties en fumée près de Denver. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Il est 7h40, auréolé du titre olympique, Alexis. Les handballeurs français jouent ce soir leur premier match de l'Euro.
6 mois après leur sacre à Tokyo, les Bleus sont de retour avec en guise de hors-d'œuvre une confrontation déjà très musclée contre la Croatie. Les Français qui font partie des favoris, même si leur préparation a été perturbée par le Covid. En tout cas, Jean-Pierre Blimeau, ils peuvent compter sur le pilier Nicolas Karabatic, toujours là à 37 ans.
Il y a 20 ans, Nicolas Karabatic entraînait sa première sélection en bleu. Il aurait pu s'arrêter en août dernier après le titre olympique qu'il a enfin partagé avec son frère Lucas. Mais il a choisi de continuer pour deux raisons principales. Nicolas Karabatic.
Le plaisir déjà de porter le maillot de l'équipe de France. Le sentiment que l'histoire n'est pas encore finie. Chacun a son histoire en équipe de France et pour moi, c'était pas le moment.
Et aujourd'hui, l'entraîneur des Bleus, Guillaume Gilles, peut s'appuyer sur un relais exceptionnel.
C'est quelqu'un qui, de par son aura, oriente beaucoup l'activité du groupe, le régule, amène sa patte et c'est très intéressant de pouvoir bénéficier de ce relais en interne au sein de l'équipe.
Car dans cette équipe de France de handball en perpétuelle évolution à 37 ans, Nicolas Karabatic continue en effet de transmettre son expérience et cela ne date pas d'hier.
Déjà à 24 ans, je faisais partie des leaders de l'équipe donc je le fais déjà depuis très longtemps. Là, c'est pas que j'ai un rôle différent, c'est que les joueurs sont maintenant beaucoup plus jeunes que moi.
Des jeunes qui ne bronchent pas devant la légende aux 3 médailles d'or olympiques, aux 4 titres mondiaux et aux 3 euros remporter.
Plus que les records voilà, qui m'intéressent, c'est aussi ce qui se passe dans l'équipe.
Une équipe dont Nicolas Karabatic a été le capitaine pour la première fois seulement dimanche dernier en amical contre l'Allemagne pour sa 325e sélection. Szeged, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
France-Croatie sur le parquet donc de Szeged en Hongrie où se déroulent ces championnats d'Europe. Coup d'envoi à 20h30.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.